11h30 en temps universel, il est 13h30 à Paris et à Berlin.
RFI Midi, Anne Cantner.
C'est une demi-heure d'actualité en Europe qui commence et puis à midi, temps universel, ça sera votre journal. Charlotte Hydrak, bonjour.
Bonjour.
Avec à la une l'escalade entre New Delhi et Islamabad.
Frappe militaire zardienne, riposte pakistanaise, c'est la confrontation la plus grave entre les deux pays, les deux voisins depuis 20 ans. Un petit peu partout dans le monde, les appels à la retenue se multiplient.
À suivre aussi la visite du président syrien à Paris.
Le premier déplacement en Europe d'Ahmed El-Sharam est controversé. La présidence française assure qu'elle demandera la protection de tous les civils. Avant lui, c'est Friedrich Merz, le tout nouveau chancelier allemand qui est en ce moment à l'Elysée au lendemain de son élection mouvementée. Le coup d'envoi aussi au sommaire d'une élection unique au monde, au Vatican, rituel très solennel pour élire le nouveau pape. Et puis PSG, Arsenal ce soir, avec en jeu une place en finale de la Ligue des Champions.
A tout à l'heure.
RFI, l'Europe à midi.
C'est donc le jour J au Vatican, le début du conclave pour désigner le nouveau chef de l'Église catholique. 133 cardinaux électeurs venus de plus de 70 pays se réunissent dans le secret dans la chapelle Sixtine. Un conclave renouvelé puisque 108 de ces cardinaux ont été créés par le pape François. Nous sommes en direct avec l'une de nos envoyées spéciaux au Vatican. Bonjour Véronique Guémard.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous avez assisté tout à l'heure à la messe qui précède le conclave et qui a réuni tous les cardinaux.
Oui, effectivement, et vous entendez un des chants ce matin à la basilique Saint-Pierre. Tous les cardinaux électeurs ou non ont célébré cette messe pro idegendo romano pontifice pour l'élection du pontife romain, à laquelle ont assisté des prêtres, des diacres et aussi des laïcs, des fidèles. Dans son homélie, le cardinal Giovanni Battista Re, le doyen du Sacré Collège, a insisté sur la charge qui pèse sur les 133 cardinaux de tous les continents qui éliront le prochain pape. Il a appelé à préserver l'unité de l'Église dans un monde perturbé qui tend à oublier Dieu. Nous sommes ici pour invoquer l'aide de l'Esprit Saint, pour implorer sa lumière et sa force, afin que soit élu le pape dont l'Église et l'humanité ont besoin en ce tournant si difficile et si complexe de l'histoire, a-t-il dit. Il a aussi rappelé que l'élection du pape n'était pas une simple succession de personne, mais l'incarnation de l'Église catholique dans la continuité de son socle fondateur, l'apôtre Pierre.
Et après la messe, Véronique, vous avez pu rencontrer sur la place de la basilique Saint-Pierre des fidèles. Certains étaient venus en pèlerinage et se sont retrouvés un peu par hasard dans ce moment du conclave.
Oui, et puis ici, l'atmosphère est fébrile. Toutes les nationalités sont représentées, beaucoup de journalistes, des touristes venus du monde entier, des fidèles catholiques en pèlerinage, effectivement, puisque c'est l'année du jubilé, une année sainte pour l'Église catholique. L'évêque d'Évry, au sud de Paris, Michel Pansard, était devant la basilique avec un groupe de pèlerins de toutes origines, ravis de vivre ce moment.
Voilà, vous avez une image du diocèse d'Évry, c'est un diocèse... voilà, c'est un diocèse avec... une diversité de cultures, d'origines, de milieux sociaux, et puis jeunes, puisque 40% de la population a moins de 30 ans. Image de l'Église universelle, y compris.
La charge du pape prochain, c'est d'unir.
C'est de travailler à l'unité, en acceptant que cette diversité, cette communion, elle soit pas uniformité.
Et vous allez surveiller les fumées, donc.
Oui, bien sûr.
C'est notre évêque, on est là en plein conclave, et on espère voir la fumée blanche avant de notre retour sur Paris.
Alors, comment va se dérouler cette entrée en conclave, Véronique ?
Alors, vers 16h30, les 133 cardinaux électeurs arriveront à la chapelle Sixtine en procession. Ils vont prêter serment la main sur l'évangile. En promettant le secret absolu, les communications seront coupées. Puis, le maître des cérémonies liturgiques prononcera la formule en latin « extra omnes », tous dehors. Et les portes de la chapelle Sixtine se refermeront. Un premier vote aura lieu cet après-midi, mais la fumée sera sans doute noire vers 19h. À partir de demain jeudi, les cardinaux voteront deux fois le matin et deux fois l'après-midi. On attendra la fumée blanche et les cloches de la basilique Saint-Pierre qui sonneront à la volée pour annoncer qu'un pape a été élu.
Véronique Guémard en direct de Rome. Une fois que le nouveau pape sera désigné, il pourra se retirer dans ce que l'on appelle la chambre des larmes pour y laisser libre cours aux émotions qui le traversent, avant ensuite de se présenter au balcon de la basilique Saint-Pierre, à ne pas manquer pour de nombreux fidèles catholiques et touristes qui sont prêts à payer très cher une place aux premières loges. Anne Lenir, les balcons, les terrasses situées près de la place Saint-Pierre représentent aujourd'hui une opportunité en or pour leurs propriétaires.
En effet, selon la presse italienne, une terrasse est louée plus de 1000 euros par jour et un balcon au moins 500 euros s'ils sont situés place Pie XII dans le Borgo Santo Spirito ou via Paul VI, les lieux les plus proches, à vol d'oiseau, du sommet de la chapelle Sixtine. Ces endroits, loués par des hôtels, des propriétaires d'habitations ou encore des ordres religieux à des chaînes de télévision, permettent de transmettre en direct un panoramique de la fumée qui s'élèvera. Noire si aucun des cardinaux n'obtient la majorité requise pour être élu pape, blanche pour annoncer l'élection du nouveau souverain pontife. La première fumée est attendue en début de soirée ce mercredi. Ensuite, si fumée noire, les bulletins de vote seront brûlés deux fois par jour vers la mi-journée et dans la soirée. Évidemment, ceux qui pensent aux bonnes affaires espèrent que ce conclave sera le plus long possible. Anne Lenir, Rome, RFI.
À Rome, il est 13h36, comme à Paris. Paris où est arrivé le chancelier allemand qui a pris ses fonctions hier. Comme le veut la tradition, Friedrich Merz réserve son premier déplacement à la France. Il est reçu en ce moment par Emmanuel Macron, l'occasion d'annoncer la création d'un conseil de défense et de sécurité. Et le président français l'assure en conférence de presse. Nous voulons répondre ensemble aux défis que l'Europe affronte. Paris et Berlin, de nouveaux moteurs sur le continent. C'est vraiment l'ambition des deux dirigeants. Analyse de Patrick Moreau, spécialiste de la droite et de l'extrême droite allemande.
La grande idée de Merz, si vous voulez, c'est de rendre à l'Allemagne sa puissance, je dirais, politique, qui corrèle quand même avec sa puissance économique, et d'avoir un partenariat très fort avec la France dans le cadre européen. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, si vous voulez, chez Merz. C'est une très bonne chose, parce que sinon, je vois pas très bien ce qui va se passer à plus ou moins court terme pour l'Ukraine, parce que, somme toute, il va falloir défendre l'Ukraine. Le fait qu'il ait brisé sa parole, il a pris un gros risque politique pour obtenir effectivement la levée des limites de financement, et qu'il ait mis 500 milliards sur la table pour reconstruire l'armée allemande et de facto soutenir l'Ukraine. C'est un acte politique véritablement qui était courageux, même si ça n'a pas amélioré son image, parce qu'il est à 20% d'opinion favorable. C'est une catastrophe.
Philippe Patrick Moreau, spécialiste de la droite et de l'extrême droite allemande. Les deux dirigeants allemands et français pour relancer donc la relation entre leurs deux pays plutôt difficile ces dernières années et pour donner un nouvel élan à une Europe divisée, une Europe inquiète aussi. Le processus de désignation de Friedrich Merz n'a pas vraiment contribué à apaiser. Vous avez pu le suivre sur notre antenne hier. Pour la première fois de l'histoire du pays, le Parlement n'a pas voté pour le nouveau chancelier. Il a fallu un deuxième tour, un deuxième vote, avant que le leader conservateur n'obtienne une majorité de voix et donc la confiance des députés. Réaction dans les couloirs des institutions européennes au Parlement de Strasbourg, recueilli par notre correspondant Jean-Jacques Herry.
Il y a ceux qui s'attachent d'abord au résultat final, et tant pis si c'est la première fois qu'un chancelier doit s'y reprendre à deux fois pour être adoubé par les députés.
L'Allemagne a un nouveau chancelier, et ça c'est le plus important. Il a un vrai profil européen. Il a commencé sa carrière comme député au Parlement européen.
Un discours logique. Daniel Caspary est eurodéputé allemand conservateur, membre de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, le même parti que le nouveau chancelier. Il balaie toute accusation de faiblesse politique. Le gouvernement stable et proactif que toute l'Europe attend, il est là, et bien là, selon lui.
Nous avons l'intention de dépenser beaucoup plus d'argent en matière de défense, en créant de la dette pour pouvoir financer le secteur. C'est un signal très clair que l'Allemagne est maintenant prête à endosser les responsabilités que nos partenaires attendent de nous voir endosser depuis des années.
Valérie Ayer, présidente du groupe Renew au Parlement européen, s'en réjouit.
C'est nouveau, notamment après la séquence qu'on a connue avec Olaf Scholz, qui a été marquée par beaucoup d'inertie. Aujourd'hui, on a un chancelier qui a rejoint les positions d'Emmanuel Macron autour de l'autonomie stratégique. Et je crois fondamentalement que ça va véritablement changer la donne dans la dynamique des discussions au niveau européen. Et c'est une bonne chose.
De son côté, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme vouloir travailler avec Friedrich Merz pour une Europe forte. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.
En Allemagne, partout dans le pays, des commémorations, des cérémonies ont déjà lieu à l'approche du 8 mai, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la capitulation de l'Allemagne nazie. Vous aurez l'occasion demain d'entendre des témoignages de rescapés des camps de concentration, des efforts sur le nécessaire travail de mémoire. Question qui se pose d'une manière toute particulière en Allemagne, de manière polémique même parfois, sous la pression de l'extrême droite. Notre correspondante Delphine Nerbollier s'est rendue au bois de Bellow dans le Brandebourg pour une cérémonie à la mémoire des prisonniers jetés sur les routes lors des marches de la mort au printemps 45.
Le bois de Bellow est un lieu calme d'une verdure frappante en ce début mai. Mais derrière l'aspect bucolique, c'est tout un pan de l'histoire qui frappe le visiteur. Il y a 80 ans, entre le 23 et le 29 avril 1945, 18 000 prisonniers des camps de concentration de Ravensbrück et de Sachsenhausen y ont séjourné, parqués comme des bêtes, sans rien à manger ni à boire. Ces prisonniers avaient été jetés sur les routes par les nazis dans les fameuses marches de la mort pour fuir l'avancée des troupes alliées. Centaines d'entre eux moururent en route ou dans ce bois quelques jours avant la capitulation de l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, dans cette forêt, une exposition en plein air et un monument aux morts rappellent cet épisode tragique de l'histoire. La semaine dernière, une cérémonie du souvenir y a été organisée. Arne, 20 ans, y a participé avec son grand-père.
C'est la première fois que je viens ici. Nous sommes venus en bus, on a suivi une partie du parcours de la marche de la mort. Mon grand-père me l'a expliqué. Je trouve ça terrifiant quand on pense à tous ces gens qui sont morts ici, dans ces conditions, dans la torture. C'est oppressant.
Cet étudiant le reconnaît. Dans sa famille, on parle très souvent de cette période de l'histoire. Mais il s'inquiète pour l'avenir du travail de mémoire dans son pays.
Pour moi, c'est très important d'être ici parce que j'ai l'impression qu'actuellement, beaucoup de jeunes oublient et ils ne sont pas conscients du passé de l'Allemagne. On est dans une période très critique. De nombreuses personnes soutiennent ou s'identifient à un parti que je qualifie d'extrême droite. Et oui, j'ai peur que les jeunes ne s'intéressent plus au passé.
Dans un pays à l'origine de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, le retour de l'extrême droite avec le Parti alternatif pour l'Allemagne, l'AFD, pèse sur les commémorations du souvenir. Le 8 mai est qualifié comme le jour où l'Allemagne a été libérée du nazisme. Or, l'AFD remet ce terme en cause, notamment via certaines de ses fédérations régionales, comme celle du Brandebourg où nous nous trouvons. Pour elle, le 8 mai reste le jour de la défaite. Axel Dricol s'en inquiète. Il dirige la fondation des lieux de mémoire du Brandebourg.
Était-ce une défaite ou une libération? Ça a toujours été un sujet polémique en Allemagne. Dans les milieux d'extrême droite, on refuse de parler de jour de la libération, mais le fait que ce sujet soit autant mis en avant par l'AFD dans notre région du Brandebourg, là où elle est la deuxième force politique, c'est une menace. On voit que notre culture du souvenir est massivement mise sous pression. Nous devons être très vigilants. Les cérémonies de commémoration, comme ici au bois de Bellow, ont donc une importance centrale.
Tage wie diese sehr wichtig.
Avec la montée de l'extrême droite et la disparition progressive des témoins directs du régime nazi, apparaît un autre phénomène. 38% des Allemands disent vouloir tirer un trait sur ce passé encombrant. Un niveau jamais atteint jusque-là et alimenté entre autres par le discours du Parti alternatif pour l'Allemagne. L'AFD relativise les crimes nazis et qualifie cette période de parenthèse. Véronika Hager travaille pour la fondation Mémoire, Responsabilité et Avenir. Elle ne veut pas baisser les bras.
Bien sûr, on ne peut pas toucher 100% de la population, mais nous sommes convaincus de pouvoir atteindre davantage de gens qu'actuellement. On n'a pas d'autre choix. La protection de la démocratie doit être remise à jour.
Sur le terrain, dans les lieux de mémoire et les musées, on est très conscient des défis du moment. Le mémorial du camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin par exemple, voit le nombre de ses visiteurs croître d'année en année. Selon Axel Dricol, l'intérêt des visiteurs reste fort, mais ce qui manque, c'est un lien entre le passé et le présent.
Il n'y a malheureusement pas d'automatisme entre l'intérêt pour le passé et les conséquences sur le présent. En fait, le passé nazi démontre à quel point la démocratie est fragile. Il nous faut donc insister sur les valeurs de notre système, lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la discrimination de certains groupes de personnes.
Dans ce contexte, et alors que l'antisémitisme est en forte hausse, les différents lieux de mémoire s'interrogent plus que jamais sur la manière de parler différemment aux jeunes. 80 ans après la fin de la guerre, le travail de mémoire est loin d'être fini en Allemagne. Il prend au contraire une nouvelle dimension.
Reportage à écouter ce soir à 17h10 temps universel. Et demain, vous pourrez découvrir dans cette demi-heure européenne des témoignages de rescapés des camps et de la déportation.
RFI Midi, Anne Contner.
Un coup d'œil à la presse européenne. The Guardian révèle qu'un drone russe a touché la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, centrale accidentée en 1986. L'attaque a endommagé l'enceinte de confinement d'un réacteur nucléaire d'une valeur d'€1,5 milliard. Les coûts de réparation, dit le journal britannique, seront très probablement supportés par les gouvernements occidentaux. Le début du conclave dont nous parlions il y a quelques minutes occupe bien sûr une place importante dans la presse aujourd'hui. Entre spectacle et foi, l'élection la plus attendue par une humanité en quête d'elle-même, titre La Stampa, estimant que l'événement implique croyants et non-croyants. Et puis la presse italienne revient bien sûr sur l'incroyable match d'hier en demi-finale retour de la Ligue des Champions. La qualification de l'Inter Milan aux dépens du Barça grâce à 2 buts après la 90e minute et pendant les prolongations. Score final 4-3, une nuit magique, s'enthousiasme La Repubblica, qui prévient, la mission finale commence, énergie à récupérer et blessures à éviter. Du côté espagnol, le quotidien de Barcelone, La Vanguardia, met en cause l'arbitrage et assure que le Barça a tout de même été digne de son maillot.
RFI à Paris, 89 FM.
L'autre demi-finale retour, c'est ce soir, Paris Saint-Germain, Arsenal. Le match sera à suivre en direct sur notre antenne. Avec au commentaire Cédric De Oliveira qui a fait un petit détour par le studio pour nous en dire quelques mots. Bonjour Cédric.
Bonjour Anne.
Avantage aux Parisiens qui jouent à domicile et qui ont gagné la semaine dernière à Londres.
Eh oui, 1-0 mardi dernier, c'était à l'Emirates, une victoire convaincante grâce à un but d'Ousmane Dembélé. À nouveau, le PSG a impressionné donc dans cette Ligue des Champions. Les Parisiens qui avaient été éliminés l'an dernier au même stade de la compétition par le Borussia Dortmund ne veulent pas d'un même scénario. Alors, malgré cette victoire à Londres, il n'y a pas d'excès de confiance autour du club. L'entraîneur Luis Enrique et le défenseur Achraf Hakimi l'ont répété hier en conférence de presse, mais contrairement aux saisons précédentes, il y a beaucoup de sérénité qui se dégage, notamment parce que le PSG peut s'appuyer sur sa belle saison et ses performances depuis plusieurs mois, sur son public aussi. On attend à une ambiance exceptionnelle au Parc des Princes. Et puis, il y a l'expérience, on parlait de la demi-finale de l'an passé, c'est la 4e fois en 6 ans que Paris se retrouve dans le dernier carré, ça aide forcément pour gérer ce genre d'événement.
Et en face, Arsenal va tenter d'effacer la défaite de la semaine dernière, les Gunners croient toujours en la qualification.
Et oui, rien ne peut nous arrêter, c'est ce qu'a déclaré Declan Rice hier en conférence de presse, le milieu de terrain anglais a déterminé, tout comme son entraîneur Mikel Arteta, qui d'ailleurs va faire son retour au Parc des Princes, lui qui, quand il était joueur, a porté le maillot du PSG. C'était au début des années 2000, mais il n'y aura pas vraiment de sentimentalisme ce soir sur la pelouse. Les Gunners qui ont été surpris par le PSG au match aller et qui veulent donc prendre leur revanche, ils pourront compter sur le retour de Thomas Partey, le Ghanéen, la sentinelle du milieu de terrain d'Arsenal qui avait beaucoup manqué à l'Emirates. Avec lui, le club londonien espère mettre le doute dans la tête des Parisiens. Un but rapide sur coup de pied arrêté par exemple, le point fort des Gunners, et le match pourrait basculer, deviendrait encore plus indécis. En tout cas, il faut qu'Arsenal gagne ce soir pour se qualifier pour la finale.
Et le vainqueur de ce PSG Arsenal affrontera donc en finale l'Inter Milan, qualifié après un match encore une fois incroyable hier face au Barça.
Ben oui, vous en parliez avec les titres de la presse européenne, exceptionnel ce match. La semaine dernière, c'était déjà un festival en Catalogne. Eh bien, l'Inter et le Barça ont encore en faire un duel sensationnel à Giuseppe Meazza en Lombardie. Les Milanais qui menaient 2-0 à la mi-temps se sont fait reprendre comme à l'aller par les Catalans qui menaient 3-2 à la 87e minute. Mais l'Inter a arraché la prolongation dans le temps additionnel avec un but d'un défenseur central qui n'avait jamais marqué en Ligue des Champions à 37 ans, donc un truc un petit peu incroyable dans le football. Avant de marquer une 4e fois en prolongation, ça fait donc 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. C'est l'une des demi-finales les plus prolifiques de l'histoire de la compétition. Une double confrontation qui va faire date, Anne, elle va marquer les esprits dans l'histoire donc de la compétition. Un mot aussi sur Lamine Yamal, éliminé. On savait tout de son talent. Il avait déjà remporté l'Euro l'an dernier avec l'Espagne. Mais cette demi-finale a montré l'avènement de ce gamin de 17 ans à l'aller comme au retour, même s'il n'a pas marqué hier. On dit qu'il a l'avenir devant lui, et bien c'est déjà le présent du Barça, le présent du foot, même d'ailleurs on peut le dire je crois. Il ne disputera pas la finale quand même, ce sera les Italiens donc de l'Inter Milan.
Finale le 31 mai à Munich et face à l'Inter Milan, il y aura donc le PSG ou Arsenal. Je le rappelle Cédric, vous commenterez le match en direct ce soir sur RFI à partir de 19h temps universel. Nos auditeurs auront même la chance de vous retrouver une dizaine de minutes plus tôt, voilà, pour s'imprégner de l'ambiance.
En plus. À tout à l'heure.
À ce soir. On a souvent parlé avec vous, Dominique Dezonnet, des efforts de nombreux gouvernements pour tenter de protéger les jeunes du pire des réseaux sociaux. Eh bien, la Nouvelle-Zélande vient de prendre des mesures très strictes, calquées sur ce qu'avait déjà fait l'Australie il y a quelques mois. Interdiction des réseaux avant 16 ans et des amendes très importantes, jusqu'à 1 million d'euros pour les entreprises qui ne feraient pas respecter ces règles.
Oui, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a annoncé lors d'une conférence de presse qu'un projet de loi visant à fixer un âge minimal pour se connecter sur les réseaux sociaux était en préparation. Il s'agit de protéger nos enfants, il s'agit de s'assurer que les entreprises de réseaux sociaux jouent leur rôle en assurant la sécurité de nos enfants, a martelé le Premier ministre. Il défendait ainsi un texte qui a été rédigé par sa formation politique, le Parti National de Nouvelle-Zélande, qui est de centre-droit. Les moins de 16 ans ne pourraient plus, si la loi est adoptée, accéder à leur plateforme sociale préférée. Toutefois, la mesure a suscité de nombreuses critiques de la part des experts en cybersécurité qui estiment que les technologies pour contrôler l'âge des internautes sont encore inefficaces. Sans surprise, les grandes plateformes sociales condamnent elles aussi ce nouveau texte. Elles estiment qu'il obligera les enfants et les jeunes adolescents à fréquenter de façon anonyme d'autres réseaux sociaux plus confidentiels, n'appliquant aucune modération.
Le gouvernement veut donc une loi, mais pour être adoptée, elle devra bénéficier du soutien des deux autres partis de la coalition gouvernementale au pouvoir.
Effectivement, mais le Premier ministre peut aussi compter sur le soutien de sa population néo-zélandaise qui s'inquiète de l'utilisation débridée des réseaux sociaux par leurs adolescents, notamment en ce qui concerne le temps qu'ils passent devant leurs écrans et le manque de modération flagrant de certaines plateformes sociales. En revanche, le Premier ministre néo-zélandais ne précise pas quelles seraient les plateformes concernées ni quand cette proposition de loi serait présentée au Parlement du pays.
Des lois similaires ont déjà été tentées dans le monde, mais aucune pour l'instant n'a vraiment abouti, Dominique.
Oui, excepté peut-être en Australie ou encore en Chine, et c'est un comble. Les autorités de Pékin conditionnent par exemple l'accès aux mineurs depuis 2021 à Douyin, la version chinoise de TikTok, avec la présentation d'un document d'identité prouvant leur âge afin de pouvoir se connecter. Au Royaume-Uni, le projet de loi qui consistait à imposer aux constructeurs de téléphones portables d'intégrer des dispositifs de protection pour les mineurs avant leur mise en vente est toujours en discussion, même constat du côté de l'Espagne qui ne parvient pas à endiguer le phénomène de l'addiction aux écrans de ces jeunes internautes. Pourtant, depuis des mois, tant en Europe qu'aux États-Unis et dans le reste du monde, les pressions s'intensifient contre les grandes plateformes numériques afin de les contraindre à mettre en place des mécanismes pour protéger la santé mentale des adolescents. Seules les menaces de sanctions financières semblent fonctionner pour l'instant. Les régulateurs européens du numérique ont ainsi obtenu du chinois TikTok, après une amende de 500 millions d'euros, qu'elle fasse enfin le ménage sur certains contenus vidéo particulièrement toxiques pour les jeunes européens.
Dominique Dezonnet, à demain. Notre rencontre quotidienne avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, le cinéaste Karim Moussaoui pour parler de son deuxième film, construit autour d'une question. Que reste-t-il quand on vous a appris à effacer toute votre vie? Cette question, elle concerne Reda, fils de la haute bourgeoisie d'Alger, au quotidien lissé pour correspondre à l'idéal de son père, pour qui il travaille d'ailleurs. Mais une série d'événements vient petit à petit faire craquer le vernis. Elisabeth Le Carré a vu le film et elle en parle avec le réalisateur.
Tu verras demain te présenter au nouveau responsable du département exploration de la Sonapec. Il va te proposer un poste. Tout ce que tu as à faire, c'est tenir tranquille et faire ce qu'on te demande.
Tu veux que je démissionne? Et si ça marche pas?
Bien sûr que ça marchera.
Karim Moussaoui, bonjour.
Bonjour.
Le cœur de l'effacement, c'est le rapport entre Reda, donc un jeune Algérien, et son père. De l'extérieur, on pourrait dire qu'il se laisse complètement esclavagiser. En réalité, Reda, il est dans une sorte de toile d'araignée d'obligations visibles et invisibles, dites et non dites. C'est ça qui vous a donné envie d'adapter le roman de Samir Toumi?
Oui, tout à fait. C'est un film qui parle d'un jeune homme qui tente de faire son devoir de fils digne de son père et qui d'être un fils parfait. Et en faisant ça, il oublie. Il n'apprend jamais qui il est réellement.
Au cœur du roman, il y a ce moment où Reda va se regarder dans le miroir et ne plus se voir.
Il perd son reflet.
C'est une métaphore puissante.
Oui. Parce qu'à un moment donné, on est un peu seul avec soi-même. Mais Reda, il n'a jamais eu Donc cette possibilité, voilà, de mener ces expériences-là de la vie qui sont toutes banales et toutes simples.
Un facelo. Yo 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 yo. Dersh ali. Wabda yahdar. Bssah nas mlah.
Karim Moussaoui, l'effacement se situe dans la grande bourgeoisie d'Alger. Et pourtant, on a le sentiment que beaucoup de jeunes en Algérie pourraient s'y reconnaître dans ce poids patriarcal qui...
Oui, pas que, mais je pense que ça, c'est le propre de toutes les générations qui sont amenées à un moment donné à remettre en question certaines valeurs, revoir la manière de faire de ce qu'on leur a légué. Et je pense que c'est pas propre à l'Algérie ou à cette jeunesse algérienne. Je pense que c'est le cas pour toutes les générations.
Donc Reda va subir trois événements majeurs au milieu du film. D'abord, il est envoyé dans un camp militaire extrêmement dur, dans lequel il va subir de plein fouet la violence. Ensuite, son père disparaît. Et puis, il va rencontrer une jeune femme, Malika. Ça va être le début de sa renaissance, puisqu'elle va lui faire découvrir un monde, en fait, dont il n'avait aucune idée avant.
Oui, alors, il y a cette phase militaire qui est très dure, mais qui lui permet aussi de réveiller le monstre qui est en lui. Ça, c'est quelque chose d'important, en tout cas dans l'histoire. C'est à ce moment-là où il commence un peu à s'affirmer. Il le fait par la violence.
Et puis viendra la renaissance avec Malika.
Un peu la renaissance.
Qui est jouée par l'actrice iranienne Zahramia.
Absolument. En tout cas, viendra un peu l'espoir.
Donc il y a un espoir possible.
Mais bien sûr.
Il y a une émancipation possible.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a toujours... C'est pour ça qu'on fait des films. C'est pour dire aussi... C'est pas pour dire que tout est noir. Mais pour dire aussi... Je pense qu'on met le doigt sur ce qui peut être conflictuel, sur la violence, voilà, sur des phénomènes de société. On en parle pour justement pouvoir un peu en parler comme on le fait maintenant.
Karim Moussaoui, merci beaucoup.
Merci à vous.
Karim Moussaoui, réalisateur du film L'Effacement, il répondait à Elisabeth Le Quéré. Dans 3 minutes, un nouveau journal sur RFI, toute l'actualité internationale et puis une demi-heure plus tard, l'actualité africaine avec vous Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
À la une aujourd'hui.
133 cardinaux entrent en conclave cet après-midi pour désigner le successeur du pape François. 17 d'entre eux viennent du continent africain où vit un catholique sur 5. De nouveaux affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les diplomaties s'activent pour tenter de faire avancer des projets d'accord de paix à Washington et à Doha, la situation sécuritaire se dégrade sur le terrain.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. Et tout de suite, on va écouter un peu de musique. Vous avez déjà le titre, et puis quoi encore de Dani Bumba, c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
Midi piment dans ma vie, midi ciment dans mes envies, et puis ce décor d'amour vainqueur. Et puis quoi encore avec mon cœur. Yo moto prometa kinga bolingo bolingo ango eke iko apiei nini angona motema nangayo komo nangayo mati komo nangapambati pona lingi yo yo moto la Oh,
encore.